Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et sur ceux qui ne la font pas. C'est une parole qui m'a frappée quand j'étais à l'AOT, l'atelier œcuménique de théologie. Ça m'a frappée et en l'entendant, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à ceux qui ne croient pas, c'est que Dieu est de leur côté, c'est que Dieu n'est pas contre eux, il ne leur en veut pas. Dieu aime l'humanité tout entière et chaque être humain en particulier, quel qu'il soit et quoi qu'il fasse. L'amour de Dieu est infini, inconditionnel, inimaginable, incommensurable, inexprimable, inépuisable, inébranlable, incroyable, incessant, immuable, inlassable, incompréhensible, incorruptible. Et peut-être que vous pourriez en dire encore. Donc, avec un amour pareil, qui que vous soyez, ce matin, de quoi que votre semaine ait été faite, soyez assurés de l'amour de Dieu et acceptez son accueil aujourd'hui. Être accueilli dans l'état précis où vous êtes. Il n'y a pas besoin de lui cacher quoi que ce soit, parce que lui sait tout et il vous aime. Dieu fait lever son soleil, aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et sur ceux qui ne la font pas. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi avec tout ce que nous sommes, avec ce qu'il y a en nous de bon et de moins bon, avec ce que nous sommes contents d'avoir accompli cette semaine, avec ce que nous ne sommes pas contents d'avoir accompli, avec nos soucis, nos disputes, nos joies. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous aimes d'un amour que nous ne pouvons imaginer, concevoir, qui déborde, qui nous étonnera toujours. Merci de ton accueil ce matin. Ouvre nos cœurs afin que nous recevions ta parole et tout ce que tu veux nous donner. Amen.
Qu'on puisse proclamer ensemble qui est Dieu. De nos montagnes et nos vallées, donc de nos cités, chacun d'entre vous, vous êtes de chaque justement horizon différent, qu'on puisse le proclamer ensemble en famille. Et je vous invite à vous lever pour commencer ce temps. On va louer le Seigneur.
Notre bouclier et sa parole, notre épée. Tourne vers toi. T'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuages. Ta fidélité, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus. Toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève.
Ce chant, je pense que vous pouvez peut-être rester assis. Je vous invite. C'est un nouveau chant. Mais je pense que. Moi, si vous voulez rester debout, il n'y a pas de souci. Mais... Parce que Dieu, voilà. Sentez-vous libre devant Dieu. C'est un chant que j'aime beaucoup, qui parle justement de l'esprit. C'est un esprit du nord, du sud, hein, de l'ouest et de l'est. Je vous invite à peut-être écouter ce chant. Prenez-le aussi avec nous. Imprégnez-vous de ces paroles qui nous disent « Oui, nous voulons être un peuple embrasé. » Moi, c'est mon cas. J'ai envie d'être ce peuple, cette personne qui veut être embrasée pour lui. Qu'on puisse aussi ce temps être transformé. C'est un choix qui dit « Viens briser nos chaînes. » détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Je vous invite à être devant lui maintenant et que l'Esprit puisse maintenant aussi visiter ce moment, vous visiter. Oui, nous voulons être un peuple envasé, l'Église que ton cœur attend.
Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant.
Oui, nous voulons être.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Thank you.
Les enfants, c'est maintenant un moment pour vous, parce que Dieu, sa parole, Jésus, c'est pas seulement pour les grands, les adultes, les papas, les grands-papas, et les mamans et les grands-mamans, c'est aussi pour vous. Même que Jésus, il vous a donné un exemple en nous disant, soyez comme des petits-enfants. Aux yeux de Dieu, vous êtes chacun important. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour les enfants. Merci de leur énergie. Merci parce qu'ils t'écoutent. Mathéo. On prie, on parle à Dieu. Merci Seigneur pour les enfants, merci de leur énergie, merci de leur esprit en éveil, merci de leur esprit prêt à accueillir beaucoup de choses nouvelles, de cette énergie où ils ont toujours envie d'avancer. Bénis-les, bénis leurs moniteurs, merci de leur engagement. Amen. Vous pouvez rejoindre vos groupes. Merci de votre patience. Comme le dernier chant le disait, il va être question du Saint-Esprit ce matin, mais pas seulement. Le texte de ce matin est très court. Il est dans Marc au chapitre 3, le verset 28 à 29. Je vous le déclare, c'est la vérité, tout sera pardonné aux êtres humains. Leurs péchés et les insultes qu'ils auront faites à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte à l'Esprit Saint, il ne recevra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Bienvenue à Philippe.
Bonjour à chacun, chacune. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est plutôt un appel? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proféré. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il reste sans pardon tout le temps, il est coupable de ce péché sa vie durant. J'ai parfois de la peine avec des textes bibliques que je lis. Désolé. Et celui-ci me pose une difficulté. Parce que cette parole qui est une parole de Jésus, quand même, parole de Jésus, cette parole me semble, ne me lancez pas tout de suite les pierres, cette parole me semble contradictoire dans les termes mêmes. Parce que Jésus commence par affirmer un salut absolument universel, tous les péchés et tous les blasphèmes seront pardonnés à tous les hommes. Entendez donc vraiment tous les blasphèmes, tous les péchés présents, passés, à venir, soit une somme considérable qu'on ne peut pas évaluer. Eh bien, tous ces péchés, dit Jésus, tous les péchés seront pardonnés à tous les hommes. Et ce n'est pas Bibi qui l'affirme, c'est Jésus. ce pardon total des péchés, eh bien, c'est l'essence même de l'Évangile. Le pardon des péchés, il est au cœur de l'Évangile et il trouve son apothéose dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu en action, dans tous les coins et recoins de notre existence, le pardon des péchés par la grâce de Dieu. Et voilà où cette phrase maintenant me semble contradictoire. C'est que dans la même phrase, parce que la ponctuation c'est chez nous, dans le texte original, elle n'y est pas comme ça, dans la même phrase où Jésus affirme un salut universel, eh bien il pose une limite à ce salut universel, qui du coup cesse d'être universel. C'est ce que Jésus appelle le blasphème ou les insultes contre le Saint-Esprit. Moi, je trouve que la pensée de Jésus, elle est difficile à saisir. Quand j'ai dit il y a quelques semaines à Denise que je pensais m'attaquer à ce texte, je n'avais pas bien réalisé là où je mettais les pieds. Et je demande à Dieu qu'il nous soit en aide pour une méditation qui soit juste de sa parole. Méditation juste. Le blasphème contre le Saint-Esprit, les insultes contre le Saint-Esprit. Je sais que cette parole a tourmenté bien des chrétiens. Qui ne s'est jamais demandé, aurais-je pu, moi, commettre ce péché impardonnable ? De façon consciente ou inconsciente, se pourrait-il que moi j'ai blasphémé, insulté le Saint-Esprit et que par là, je sois impardonnable? Je sais que cette parole, elle a suscité bien des interprétations, elle a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Je vais essayer d'en économiser un peu ce matin. Que peut donc désigner le blasphème contre le Saint-Esprit? Jésus annonce le pardon de tous les péchés à tous les hommes, sauf un. Et si je comprends bien, cet unique péché, c'est la clé pour tout le reste, puisque cet unique péché conditionne le pardon de Dieu. Blasphème contre le Saint-Esprit. Pour les citoyens suisses modernes que nous sommes, la notion même de blasphème est largement tombée en désuétude. En Suisse, il n'existe plus de loi réprimant le blasphème. À Genève, la dernière condamnation à mort pour blasphème remonte à 1632. Désuet le blasphème. Désuet le blasphème. Jusqu'à des caricatures dans certains prophètes. Dépasser le blasphème, jusqu'à l'attentat de janvier 2015 contre un hebdomadaire satirique qui a marqué le retour sanglant de cette notion du blasphème devant nos consciences sidérées. Plus récemment, il y a quelques jours, il y a eu en France cette jeune fille prénommée Mila, accusé d'avoir blasphémé en utilisant des mots très crus à l'endroit de la religion musulmane et des fois en général. Il ne faut pas oublier qu'en Occident chrétien, la répression du blasphème a duré longtemps, en terre catholique comme en terre protestante. La répression du blasphème, elle venait punir les hérétiques, les apostats, mais aussi les libres penseurs et les athées et les gens de mauvaise vie, puisqu'un malcroyant était automatiquement considéré comme un voyou, comme un dégénéré. À cette époque, quand on réprimait encore sur nos terres le blasphème, c'est que le blasphème consistait à exprimer un rejet de la foi commune, d'une foi unique, d'une foi partagée, d'une foi qui faisait le ciment de la société. Et en rejetant cette foi, on rejetait la société. Et en rejetant la société, on blasphémait. Mais comment alors peut-on faire le choix conscient du rejet du Saint-Esprit ? Comment peut-on consciemment blasphémer, rejeter, insulter le Saint-Esprit ? Déjà, il faut s'entendre un peu sur les mots. Lorsque nous évoquons le Saint-Esprit, de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour nous, de la manière dont Dieu agit dans le cœur humain. Quand je parle du Saint-Esprit, moi, je parle de la manière dont Dieu agit dans le cœur humain. Du coup, l'Esprit, il est aussi difficile à définir que Dieu lui-même. On en parlait le 26 janvier dernier. Pas évident de définir Dieu. Et il me semble que l'Évangile ajoute à la difficulté. Dieu est esprit, lit-on chez Jean. Dieu est esprit. Et Jean ajoute, personne n'a jamais vu Dieu. On est dans l'embarras, hein ? Parce que personne n'a jamais vu l'esprit non plus. Personne ne sait à quoi il ressemble. L'esprit est insaisissable, incernable, irreprésentable. Nulle église, nul courant ne peut en revendiquer la propriété. Il n'appartient à personne et personne ne peut se l'approprier, le Saint-Esprit. Le Christ lui-même le compare au vent qui souffle où il veut. On l'entend distinctement, on discerne son action, mais on ne sait, dit Jésus, ni d'où il vient, ni où il va. Avec ça, c'est pas simple de faire une théologie systématique du Saint-Esprit. Et rien n'empêche que l'Esprit souffle sur des réalités situées en dehors de l'Église. Rien n'empêche que l'Esprit souffle en dehors de nos cadres formatés, attendus, et même sur l'athéisme, et même sur ces religions, ces fois, ces philosophies, ces sous-cultures qui n'ont rien de commun avec la foi chrétienne. L'esprit est impossible à domestiquer. Et méfiez-vous, mes amis, de celles et ceux qui voudraient s'arroger la possession du Saint-Esprit. Il est impossible à domestiquer. Il est pour moi une sorte de visiteur imprévu qui arrive à l'improviste. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas du tout une abstraction fumeuse ou vaporeuse. On peut mesurer ses effets concrets dans la vie réelle. Comment ? Lorsque des conflits se résolvent, lorsque des malentendus se dissipent, lorsque des attitudes changent, lorsque des réconciliations s'opèrent, lorsque des guérisons se produisent, lorsque des actes positifs, constructifs, bienfaisants sont accomplis. Chaque fois qu'il y a un progrès, même minime, dans l'humanisation de l'être humain, chaque fois que je m'améliore un petit peu, chaque fois que la bienveillance, la grâce, la paix, la justice, la vérité triomphent, chaque fois, il est possible de dire que l'Esprit a soufflé. Cette puissance qui est aussi libératrice que réconciliatrice, c'est une puissance qui est à la fois en nous, qui n'est pas sans nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un fantôme, hein. Le Saint-Esprit, il a besoin d'un hôte qui l'accueille. Et cette puissance ne vient pas de nous. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance de salut, de guérison, de réunion et d'inspiration qui traverse les hommes et les femmes. C'est le réformateur Martin Luther qui a beaucoup insisté sur le fait que la tâche prioritaire de l'Église consistait à annoncer que cette puissance est à l'œuvre pour tous les pécheurs, donc pour tout le monde, sans distinction, et qu'il était de première importance que ceux qui l'entendent ne l'oublient pas, afin d'en profiter eux-mêmes et d'en faire profiter d'autres. La mission première de l'Église, selon Luther, c'est la communication partout et à tous de la rémission des péchés. Je déduis de cette insistance du réformateur allemand le raisonnement inverse, à savoir qu'il est, dans un sens contraire, possible que l'homme se détourne du Saint-Esprit, que l'homme rejette le Saint-Esprit, qu'il l'insulte, qu'il le blasphème. Il est possible que l'homme refuse d'être atteint par le Saint-Esprit, qu'il n'en profite pas et qu'il n'en fasse pas profiter d'autres. Et il me semble que c'est bien de cela dont Jésus parle dans notre texte de ce matin. Rejeter volontairement le Saint-Esprit, rejeter la voix de Dieu. Se pourrait-il alors, dans ces conditions, que le blasphème contre le Saint-Esprit désigne avant tout une attitude, une posture, l'attitude figée d'un homme ou d'une femme qui refuse de croire qu'une puissance de salut, de guérison, de réunion et d'inspiration existe et que cette puissance soit efficace pour lui, pour elle. L'attitude figée de celui ou de celle qui n'admet pas que Dieu pardonne tous les péchés. Vraiment tous ? Je reconnais volontiers qu'il y a quelque chose de choquant dans l'idée que Dieu pardonnera tous les péchés. Il y a quelque chose de choquant là derrière. Nous préférons infiniment croire que les méchants recevront finalement le châtiment qu'ils méritent, qu'ils grilleront dans les feux de l'enfer. Cela nous paraît plus juste que cette affaire de pardon. Examinons ça encore de plus près avant de conclure. C'est quoi pardonner ? Que faut-il pour que le pardon soit réel ? Il me semble qu'il y a besoin de réunir trois conditions. Premièrement, il faut que je demande pardon. Il faut que je me repente. Comme le fils prodigue de la parabole qui rentra en lui-même avant de se jeter dans les bras de son père qui le rétablit en tout. Deuxièmement, il faut que ma demande de pardon soit entendue et reçue, qu'elle soit accueillie en somme. Troisièmement, il faut que le pardon me soit accordé et que je le sache. Que ce soit dit, démontré d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait des choses pour me le rappeler. À ces trois conditions, quelque chose peut être fondamentalement réparé. C'est pourquoi il est capital, vital même, que je sois pleinement conscient, moi, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Quelle que soit la gravité de mes péchés, Dieu me pardonne. Parce que son amour est immense. Dieu me pardonne. Si je l'ignore, si je refuse de le croire, si je m'en détourne volontairement, durablement, alors le pardon ne peut plus agir en moi. Il ne peut plus m'atteindre. Je l'en empêche. Je lui barre la route. J'ai encore en mémoire l'histoire de cet homme qui s'était donné la mort dans des circonstances tragiques. C'était quelques semaines avant que je vous rejoigne ici. Il avait laissé une lettre stipulant expressément qu'il ne voulait aucun culte chrétien à sa mémoire parce que, écrivait-il, « Dieu ne me pardonnera jamais ». Qu'avait-il fait? Je ne l'ai jamais su. Eh bien, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose de cette nature-là. En postulant « je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas être pardonné, je me coupe du mouvement essentiel de Dieu envers le genre humain, envers moi, un mouvement essentiel de Dieu qui n'est que bonté et grâce. » Et comme Jésus m'en prévient, si je me coupe volontairement de ce mouvement de Dieu vers moi, alors je reste, moi, sans pardon. Je reste sans pardon. Dans ce cas, le pardon ne me sert à rien. Si je n'en veux pas, il ne me sert à rien. C'est aussi simple que ça. Je comprends donc de la manière suivante la parole du Christ que nous méditons ce matin. Quiconque refuse le Saint-Esprit s'exclut lui-même du pardon de Dieu. La condition finale du pardon, c'est que je l'accepte pour moi-même, que j'accepte d'être touché, moi, au plus profond de mon âme, de mes tripes. S'il ne parvient pas à ma conscience, le pardon de Dieu, je ne l'intègre pas, je le tiens à distance, je m'en prive. Je reste donc enfermé dans mon désespoir. Et ce désespoir bloque l'action de Dieu. Et il en sera ainsi tout le temps que je persisterai dans mon refus d'être pardonné. Je note que tout ceci se passe dans l'existence présente. Ça se passe dans l'ici-bas, ça se passe dans le maintenant, ça se passe ce matin dans cette salle de culte pour nous. Jésus décrit un processus qui a cours dans l'aujourd'hui de ma vie. Parfois, nos traductions françaises de ce passage sont ambiguës. On lit par exemple « Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit se rend coupable d'un péché éternel qui dure pour l'éternité. » En réalité, la vie future n'est absolument pas concernée dans ce passage. En grec, qui est la langue du Nouveau Testament, c'est le même mot qui désigne l'éternité ou le temps d'une vie humaine. C'est dans le temps de la vie humaine que les choses se passent. C'est maintenant que je reçois le pardon de Dieu. C'est maintenant qu'il faut entendre, recevoir, vivre le pardon de Dieu. S'en priver aujourd'hui, c'est déjà passer à côté de sa vie. Finalement, il est intéressant de découvrir ici une limite à l'action de Dieu. Le Dieu tout-puissant semble connaître là une limite. Et cette limite à l'action de Dieu, c'est le refus de l'homme. Dieu cherche l'homme, il n'abandonne pas sa quête. Encore faut-il qu'en retour, l'homme cherche Dieu. Adam, où es-tu? Ah, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Voilà tout le problème. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Dieu nous a choisis. Dieu nous aime. Encore faut-il qu'en retour, nous le choisissions. Encore faut-il qu'en retour, nous ne restions pas sourds à ses appels. Qu'on ne crache pas sur sa main tendue. Au refus de l'homme, Dieu n'a que sa patience à opposer. Son pardon est toujours offert, sa main reste tendue, mais l'homme peut volontairement s'en détourner, refuser, se cabrer. Je peux revenir à la peur, comme l'écrit l'apôtre Paul. Je peux revenir à la peur. Si je refuse l'esprit de guérison, si je refuse l'esprit de réunion, si je refuse l'esprit de réconciliation, si je m'enferme dans la culpabilité et donc dans la peur, je refuse l'action de Dieu et je suis tout seul. Mon enfermement et ma souffrance avec dureront aussi longtemps que mon refus de cet esprit de guérison, de réunion et de réconciliation. Pour conclure, gardons-nous d'une classification qui serait excessivement simpliste. On est complexe, hein, mes amis. On est complexe. C'est bien à l'intérieur de chacun de nous que l'existence et le chaos se confrontent. C'est en nous que les ambivalences se tissent. C'est chez nous qu'il y a des effondrements. Vous et moi, nous sommes porteurs d'un manque d'être, d'une part de néant qui parfois peut faire barrage au Saint-Esprit. Mais d'une part seulement, une part seulement. Et il nous faut interroger cette part. Pouvons-nous l'interroger ? Ah, je crois. Nous pouvons choisir de sortir de la peur, comme jadis Israël est sorti de la maison de servitude. Nous pouvons choisir la vie en abondance. Nous pouvons choisir la lumière qui fait place nette. Nous pouvons choisir le Christ, son salut, sa paix, sa justice restaurative. Nous pouvons accueillir la grâce de Dieu. Nous pouvons chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous pouvons accueillir l'Esprit qui développe en nous des fruits généreux, magnifiques, et la conscience d'être des fils et des filles aimés de Dieu. Dieu nous voit tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes. Mais par sa grâce et son esprit, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Alors au fond, cette parole étrange du blasphème contre le Saint-Esprit est dans la bouche de Jésus et résonne chez moi moins comme une menace que comme un appel. Et cet appel, je veux l'entendre. Et je veux y répondre. Je veux le choisir, lui. Et je vous invite à en faire tout autant. Amen.
Faisons silence et descendre en nous au plus profond ce que Philippe vient de nous dire. Seigneur, nous voulons ton pardon comme un baume sur toutes nos blessures, sur tout ce qui nous fait souffrir, sur tout ce qui nous rend malheureux. Seigneur, que ce que nous avons reçu ce matin reste en nous tous les jours de la semaine. Fasse de la place à l'intérieur de nous pour te recevoir, nous recevoir tel que nous sommes et recevoir l'autre. Merci parce que tu ne nous laisses pas tel que nous sommes, mais tu nous veux. Tu veux que nous nous sentions bien, heureux, apaisés. Merci Seigneur de ton amour. Amen. Je vous propose de chanter en restant assis parce qu'il s'agit de notre relation intime avec Dieu. Encore un moment où nous sommes tout seuls devant lui, le chant dans ta présence.
Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, Jésus. Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi.
nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Dieu. Romains 5 au verset 8 dit « Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas envoyé Jésus. Si Dieu ne nous aimait pas, la mort de Jésus ne serait que notre condamnation. Voyez combien vous êtes mauvais. Et Jésus serait mort et ce serait fini. Le péché aurait gagné. Mais non, Dieu ne s'en tient pas là. Ce n'est pas le péché qu'il y a le dernier mot. Notre vie ne s'arrête pas là. Dieu a ressuscité Jésus. Pour dire, pour moi, ce qui est plus important, c'est la vie. L'ardoise du péché, je l'efface. Ce que je veux, c'est que tu sois en vie. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Dieu, parce qu'il a donné son Fils. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait. Il ne l'a pas fait parce que nous étions méchants, il l'a fait parce qu'il nous aimait. Et ça, c'est ce qui est premier. L'amour de Dieu vient avant tout. C'est lui qui est même à l'origine de la création. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est dans Jean 1, Jean 4, les versets 9 et 10.
On va lire l'institution de la scène en Marc 14, versets 22 à 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Puis il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. » En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller à la montagne des Oliviers.
Nous prions. J'ouvre mon cœur à ton amour. Et sans crainte, je le reçois. Tu as prouvé ton amour envers nous, en donnant non seulement ce qui était pour toi le plus cher, mais encore ce qui était décisif pour nous. Une condamnation contre une justice qui nous est imputée. Et nous voulons recevoir cet amour. Nous voulons le savourer. Nous voulons nous en nourrir. Nous en avons besoin pour la route. Père, permets que ce temps où nous célébrons le souvenir de ce sacrifice contribue aux ressources dont nous avons besoin pour la suite du chemin. Merci pour Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Merci pour Dieu qui est devenu notre Père. Et merci pour le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous. Aide-nous à goûter ce repas comme tout à nouveau, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Amen.
Nourris par le pain, désaltérés par le vin, nourris et désaltérés de la présence de Dieu, je vous invite à chanter le Notre Père. À cause de Jésus mort et ressuscité, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Vous allez faire de la gymnastique parce que vous allez vous relever pour chanter pour l'offrande. L'offrande avec les sachets est l'offrande auquel se joint aussi tous les dons que nous faisons par le CCP.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre.
Seigneur, cet argent que nous t'offrons en réponse à tout ce que tu nous donnes est bien peu de choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Que cet argent soit un signe de bénédiction pour tous ceux qui en bénéficient, nos pasteurs et leurs familles, les envoyés de la Frée et toute notre Église. Merci pour tout Seigneur. Amen. Les annonces.
Bonjour à tout le monde. Alors, pour les annonces de cette semaine, donc juste après le culte, on fera une petite pause Le colloque extraordinaire pour la nomination du groupe de recherche et de réflexion pour le poste à 50%. Ensuite, mardi, prière communautaire à 20h15 ici à l'EM. Le groupe de jeûne, mercredi. La rencontre du conseil ce jeudi à 20h. Et puis, vendredi, le caté dès 18h45. Dimanche prochain, il n'y a pas de culte ici, puisqu'il y a la journée inter-église qui se déroulera à Palexpo. Ensuite, mardi 3 mars, le fil d'argent. Le 27 mars, nos amis Thierry et Rebecca Terra, qui travaille pour Jeunesse en Mission, ont le repas annuel ici et tout le monde est invité à venir ici le 27 mars sur inscription. Ensuite, pour cet été, on se projette assez loin, Mérin-les-Bains, c'est une action pour rejoindre Mérin. Il y a besoin d'une petite équipe pour le service d'un repas, préparation du repas plus service à table. Ce serait sous l'entête de l'Église et puis les bénéfices seraient pour le CTT. Si jamais vous avez besoin d'informations ou pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à Claude Parnigoni qui est debout. Voilà, je crois que c'est la dernière annonce. J'ai encore deux annonces. Alors, je te laisse d'abord la parole.
Alors, on cherche toujours une personne qui saurait faire un repas de la Pâque juive. Donc, si quelqu'un sait faire un repas de la Pâque juive, c'est volontiers qu'il vienne s'adresser vers un des responsables pour organiser ça. Merci.
Merci. Pour le groupe de jeunes. Nous avons encore deux petites annonces. Donc, on a reçu via Irène et Philippe Cornu les salutations des Sewell que vous avez visités dernièrement, c'est juste. Voilà, donc toute l'église est saluée par les Sewell. Et puis, une dernière annonce. Vous savez qu'après, il y a toujours un petit moment café. Peut-être certains ne l'avaient jamais vu, mais il y avait toujours une petite boîte à côté pour contribuer au service des cafés, notamment l'achat de café. Dans la politique qu'on a de manière générale de vouloir accueillir, on s'est dit que ça serait bien d'y renoncer, parce que c'est des éléments qui peuvent, disons, des frais qui peuvent être assumés dans le cadre des activités de l'Église. Et on avait à cœur le conseil de pouvoir supprimer cette petite boîte et que ce soit vraiment des cafés qui soient offerts. Certains voyaient la petite boîte, d'autres ne la voyaient pas. Et puis, il y avait toujours une sensation de peut-être malaise pour certains de la découvrir bien après. Donc maintenant, plus aucun souci, c'est un véritable accueil. Vous pourrez prendre un café tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Alors, encore la bénédiction.
Heureux de vous retrouver, en tout cas, après ce déplacement de quelques jours en Asie du Sud-Est. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout s'est bien passé grâce à Dieu. Et puis nous pensons ce matin à Sylvain qui s'envole mardi, c'est juste, pour le Laos. C'est 8 semaines de déplacement, Sylvain ? 7. Que le Seigneur te garde et te rende en bénédiction auprès de nos frères et sœurs au Laos. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Et cette bénédiction, je l'emprunte à l'apôtre Paul en Romains 8, les versets 13 à 17. Si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplissent encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc nous sommes aussi ses héritiers, oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Allez en paix, enfants, fils et filles de Dieu. Allez en paix. Bon dimanche.